Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et c'est à Bordeaux que nous attend Franck Ferrand pour bien commencer la semaine. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Nous sommes en effet dans la capitale de l'Aquitaine, aux belles rives de la Gironde cet après-midi. C'est la grande et prestigieuse librairie bordelaise Mola qui nous reçoit au milieu de quelques 300 000 volumes, 190 000 références gérées par 52 libraires. Vous imaginez ça? C'est assez extraordinaire. Nous avons réalisé plusieurs émissions ici à Bordeaux dans le passé. Celle d'aujourd'hui est en quelque sorte un clin d'œil à nos auditeurs du Sud-Ouest et un moyen de saluer la splendeur d'une cité qui a fait peau neuve et, j'ai très souvent eu l'occasion de le dire à ce même micro, figure sans doute aujourd'hui parmi les plus belles d'Europe. Nous sommes en direct, évidemment, donc si vous vous trouvez du côté de Bordeaux et voulez passer nous dire bonjour, eh bien vous savez où nous trouver, chez Mola. Je ne suis pas venu tout seul à Bordeaux, Marc Menant est avec nous et ensemble nous allons évoquer une des belles figures de l'esprit et de la curiosité, un savant explorateur vaguement oublié de nos jours, le berlinois Alexander von Humboldt, dont le grand voyage, quand je dis grand voyage, c'est 5 ans d'aventure qui sont la véritable découverte de l'Amérique, dont le grand voyage s'est terminé ici, sur les quais de Bordeaux.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Ferrand.
J'aurais pu croire, en voyant Alexander von Humboldt au sortir de l'enfance, qu'il deviendrait un des hommes les plus admirés, les plus honorés de son temps. Adolescent, c'est un être fragile, il faut vous l'imaginer comme ça, un peu dégingandé, irrégulier, inattentif et qui s'ennuie dans son carcan familial. Il est issu d'un milieu d'aristocrates aisés, on en vient même à s'interroger en vérité devant les faiblesses apparentes de ce jeune homme sur ses véritables capacités intellectuelles. Mais peut-être que cet enfant distrait est simplement mal compris, ça arrive souvent, ça vous savez, car dès qu'il a l'occasion de se pencher sur ce qui lui plaît, alors là d'un seul coup, il s'éveille. Son moteur, c'est la passion qu'il nourrit pour la nature. Il est fasciné par tous les mystères que recèle la nature et cette soif de comprendre ce qui l'entoure, Alexandre cherche très tôt à l'étancher. Au fil des années, un objectif va s'esquisser, va se faire jour dans son esprit. Quand il le pourra, il quittera sa Prusse natale et il partira étudier un monde nouveau, un monde inexploré qui lui donne là-bas le sentiment de lui tendre les bras. En ce début de juin 1799, Alexandre a 29 ans. Vous voyez qu'il en est bien sorti maintenant de l'adolescence et il voit son rêve en voie, en passe de se réaliser. Il faut l'imaginer, ce jeune homme joyeux, au regard plein d'enthousiasme, presque exalté. Il faut l'imaginer sur les quais du port de la Corogne, entouré de bateaux en partance pour des contrées lointaines. Il est accompagné par un ami français, Aimé Bonplan, qui, comme lui, a depuis longtemps des envies d'ailleurs. Leur imaginaire est nourri des récits de voyages de Bougainville. On est à la grande époque, vous savez, de cette seconde partie des grandes découvertes, si je puis dire, qui est la partie scientifique. Bougainville les inspire et ces jeunes gens ont lu toutes sortes d'ouvrages de sciences naturelles, ils sont au fait des débats qui animent les savants de leur époque sur la formation des continents, sur l'origine des volcans, etc. Et j'en passe, et des meilleurs. À plusieurs reprises, les deux amis, donc Humboldt et Bonplan, ont failli partir d'abord vers l'Égypte, ils ont voulu explorer l'Atlas, il a même été question qu'ils rejoignent une grande expédition organisée à travers le monde par le français Baudin. Mais à chaque fois, ça n'a pas pu se faire. Alors, cette fois, c'est la bonne. Ils ont obtenu du roi d'Espagne un certain nombre de recommandations. Ils sont convaincus de l'intérêt d'un voyage d'exploration dans les immenses colonies américaines que possède cette Espagne là-bas de l'autre côté de l'océan. Les voilà maintenant sur leur bateau qui s'appelle, j'ai presque envie de dire, qui se devait de s'appeler le Pizarro. Et dès le départ, Humboldt et Bonplan sont très concentrés sur leurs objectifs de découverte sous le regard qu'on peut supposer un petit peu médusé des autres passagers. Il passe déjà aux travaux pratiques. Voilà ce que nous raconte Paul Gagnaire, qui connaissait si bien cette époque du Premier Empire et de tout ce qui l'a précédé. « Pendant les semaines passées à bord, écrit-il, ils ont multiplié les expériences, recueilli des échantillons d'eau de mer, étudié les algues flottantes, disséqué de nombreux poissons. » Vous voyez qu'ils n'attendent pas d'être arrivés là-bas sur place, ils commencent déjà leurs études pendant la traversée. Ils sont comme ça, ils ne s'arrêtent jamais, ces jeunes gens. De tout ce qui les entoure, ils ont tendance à faire un objet d'étude. On peut dire que toute occasion est bonne à prendre. Alors, grâce à un héritage qu'il a reçu à la mort de sa mère, Humboldt a un peu d'argent. C'est comme ça qu'il a pu investir dans un certain nombre d'appareils de mesure. Il en a avec lui, hein. Il a des bagages très importants. Il se sert de tout ça, vous l'aurez compris, dès le début du voyage. Alors, le Pizarro initialement devait se rendre à Cuba, seulement il est dérouté, notamment en raison d'une épidémie à bord. Il est dérouté vers le port de Cumana au Venezuela. Qu'à cela ne tienne, Humboldt et bon plan voient tout de suite dans ce changement d'itinéraire une nouvelle occasion. Et sans doute, grâce à leurs recommandations du roi d'Espagne, ils sont accueillis avec bienveillance par les autorités locales. Et là encore, sans perdre de temps, ils se mettent au travail. On peut dire qu'il y a, chez le jeune Prussien notamment, hein, chez cet Alexandre, une sorte d'enthousiasme qui submerge tout. Comme le révèle Jean-Paul Duviol, c'est Charles Minguet, Humboldt écrit alors à son frère, je le cite, « Nous sommes enfin ici dans le pays le plus divin et le plus merveilleux. Des plantes extraordinaires, des anguilles électriques, des tigres, des tatous, des singes, des perroquets et de nombreux, très nombreux indiens purs, à demi sauvages, une race d'hommes très belle et très intéressante. Nous nous promenons comme des fous. Bonplan assure qu'il perdra la tête si les merveilles ne cessent pas bientôt. Je sens que je serai heureux ici et que ces impressions me réjouiront souvent encore dans la suite. » On peut dire qu'ils sont en train tout simplement d'emmagasiner non seulement de bons souvenirs, mais peut-être les meilleurs souvenirs de leur existence. Alors, pour l'instant, les choses ne font que commencer, bien entendu. Après quelques semaines passées près des côtes, les deux amis décident, on est en février 1800, ils décident de faire le grand saut, de partir en expédition vers l'intérieur du continent, vers ces terres qui s'annoncent d'emblée très inhospitalières. Leur but affiché, c'est trancher un vieux débat sur l'existence ou non d'une voie de communication fluviale entre les bassins de l'Orénoque et de l'Amazone. C'est un projet très ambitieux, disons clairement que c'est un projet très dangereux, qui pousse les deux frêles européens à s'engager vers des régions luxuriantes, certes, mais tellement mal connues et tellement grouillantes d'une faune qu'on imagine peu amène. Alors, est-ce qu'ils ont bien conscience vraiment de ce à quoi ils vont devoir faire face ?
De la sonate numéro 5 du printemps de Beethoven par Renaud Capuçon à l'instant sur Europe 1. Restez avec nous. Dans quelques instants, nous allons retrouver Franck Ferrand, direct de la librairie Mola à Bordeaux, pour la suite des aventures de l'explorateur Alexander von Humboldt.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et cet après-midi, au cœur de l'histoire, c'est l'explorateur Alexander von Humboldt qui est à l'honneur. Il est avec son ami au début de son aventure à travers l'Amérique, Franck.
Et oui, ils ont débarqué comme ça au Venezuela, vous imaginez, dans des terres qui sont particulièrement hostiles et en tout cas totalement inexplorées par les Européens. La première étape des deux amis avides de découvertes, vous l'aurez compris, c'est la traversée de ces étendues de plaine de la région des Llanos où déjà ils ont l'occasion de croiser toutes sortes sortes de serpents, des animaux dangereux, hein, des caïmans, des poissons carnivores, tout ça est très exotique bien entendu. Ils atteignent finalement le fleuve Apure, puis bientôt l'Orénoque. Ils naviguent sur des barques, lorsque les barques ne fonctionnent plus, ben on prend des radeaux, vous imaginez, et l'on s'enfonce dans une véritable jungle. Bonpland ne sait pas nager à l'époque, c'est quand même terrible, il doit avoir une peur folle, notamment sur ces fleuves dont les courants sont traîtres, avec des eaux agitées, avec toutes sortes de tourbillons qui peuvent vous surprendre. Il y a constamment, dans cette expédition des deux jeunes gens, des périls mortels. Voilà ce que nous dit Paul Gagnaire. On peut imaginer que c'est à ce moment seulement que le Prussien et le Français mesurent toute la folie de leur entreprise. Les voici seuls, au milieu de populations hostiles, cernés par la forêt vierge, obligés de se nourrir comme les indigènes et de boire une eau boueuse, exposés aux attaques d'animaux sauvages, aux morsures de serpents, aux piqûres de moustiques, ne disposant d'aucun équipement pour lutter contre les intempéries et prévenir les dangers de toutes sortes. On pourrait imaginer qu'ils vont faire demi-tour un moment, mais non, ils continuent toujours portés par cette espèce de besoin de connaître, de désir de découvrir. Ils continuent à contempler, à recenser, à collecter, à étudier. C'est inouï ce qui s'est passé dans cette époque, vous savez, ce tout début du 19e siècle où l'on a la soif de classer, de classifier, de comprendre, en quelque sorte d'inventorier le monde. Humboldt prend des notes, bien entendu, très scrupuleusement sur tout ce qu'il observe, la faune, la flore, les comportements des indigènes aussi qui l'intéressent particulièrement. Il recopie tout ça plusieurs fois parce que le papier a tendance à être rongé par les insectes ou envahi par la moisissure. Alors on se dit qu'en faisant plusieurs copies, on a peut-être une chance d'en sauver quelques-unes. Et bientôt, nos deux amis qui sont bloqués dans leur remontée du fleuve vont devoir se résoudre à poursuivre. Alors cette fois, c'est même plus en barque ou en pirogue ou en radeau. Ils vont devoir poursuivre à pied. Évidemment, il n'y a pas de chemin hein, dans cette jungle. Il faut constamment se frayer un passage au coupe-coupe. Comme le raconte Mireille Gaillet, les conditions de voyage sont dantesques. Voilà ce qu'elle nous dit. Il est difficile de nous représenter ces deux voyageurs de l'époque en jaquette, gilet et bottes à revers, faisant transporter à dos d'hommes ou de mules non seulement un matériel de mesure en quantité incroyable, fragile et encombrant, mais aussi des caisses enfermant les résultats de leurs récoltes botaniques, zoologiques et minéralogiques, caisses qui ne les ont jamais quittées et dont le nombre total à l'arrivée sera d'une quarantaine. Vous imaginez ça? Une quarantaine de caisses. Et c'est là, sans compter leur ménagerie ambulante, singes, toucans, perroquets, tout ce monde-là, toute cette ménagerie les suit. La nuit est l'épreuve la plus redoutable pour les compagnons, bien entendu. Ils doivent dormir dans des hamacs tendus entre des arbres, au son de cette espèce de symphonie constamment inquiétante que fait entendre la faune locale. Et souvent, leur chien jappe parce qu'il entend des prédateurs qui rôdent autour du camp. Oh, le petit chien, ça ne l'empêchera pas de finir lui-même dévoré. Mais au-delà de toutes les difficultés, il y a des résultats. Les découvertes sont quotidiennes. Humboldt et Bonpland identifient ce fameux passage si contesté entre les bassins de l'Amazone et de l'Orénoque. Pour eux, le jeu en valait vraiment la chandelle. Ils parviennent dans des étendues inexplorées du savoir scientifique et ce seul fait leur permet de tout supporter. Mais si Humboldt, qui n'est plus du tout l'enfant souffreteux que je vous décrivais au début de cette émission. Si Humboldt fait preuve d'une forte résistance physique, son compagnon français, lui, est nettement moins solide. Il est touché par de terribles maladies et bientôt la fièvre va le toucher, va le gagner et va le faire sombrer dans le coma. Alors, il faudra s'arrêter, bien entendu, attendre, espérer, bien entendu, attendre que la maladie aille jusqu'au bout ou bien qu'elle reflue. Vous savez, on ne sait jamais dans ce genre de circonstances. Bonpland, finalement, s'en sort. Et donc, Le voyage reprend. Voilà les deux amis qui rejoignent la côte et qui décident en novembre 1800 de s'embarquer pour Cuba. C'est là-bas, pour Humboldt, l'occasion de s'intéresser encore plus précisément à la société coloniale, car son intérêt ne se limite pas à la nature, vous l'aurez compris, hein, loin de là, les organisations humaines et même politiques l'intéressent. Tout ce qui a trait à la connaissance le passionne. C'est un homme aux idées avancées, nous y viendrons dans un instant avec Marc Menant. Humboldt s'est passionné pour la Révolution française et l'esclavage, notamment si répandu dans ces contrées, le désole profondément. Alors, on va les voir bientôt à Cuba. Là, quand même, ils envisagent de rentrer en Europe. Humboldt et Bonpland vont apprendre que l'expédition de Baudin, vous savez, cette expédition à travers le monde à laquelle ils avaient failli autrefois participer, est attendue prochainement au Pérou. D'après vous, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ni une ni deux, ils se mettent en route pour aller à la rencontre de Baudin. Non, ils n'en ont pas assez de leur pérégrination. On peut dire que pour eux, l'aventure continue.
Cet après-midi, Franck Ferrand est en direct de Bordeaux depuis la librairie Mola où il vous raconte l'histoire de ce naturaliste, géographe et explorateur allemand, Alexander von Humboldt. Vous pouvez bien sûr réagir et laisser des messages sur la page Facebook d'Au cœur de l'histoire et vous pouvez tweeter avec le hashtag ACDH. Franck Ferrand revient dans un instant.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h, 15h. Sur Europe 1.
Et si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1, Franck Ferrand nous fait vivre le grand voyage de l'explorateur Humboldt cet après-midi. C'est la suite, donc il est toujours avec son ami français Bonpland et ils sont toujours au cœur de la jungle, Franck.
Alors oui, et ils ont l'intention d'aller rejoindre le Pérou, vous l'aurez compris. Mm-hmm. Donc Humboldt et Bonpland qui ont débarqué à Cartagène. Cartagène, ça se situe actuellement en Colombie. On est là au printemps 1801. Eh bien, ils vont devoir de nouveau affronter les plaisirs, si je puis dire, de la jungle et gagner le haut plateau de Bogota. De là commence une expédition d'un autre genre puisqu'il faut traverser cette fois les Andes. On a l'impression que rien les arrête, hein, quand même. Et pour eux, ça, c'est la découverte non seulement de paysages à couper le souffle, bien entendu, avec ces volcans gigantesques, ces chemins escarpés, ces falaises très abruptes, bien entendu, mais c'est l'occasion de faire de nouvelles découvertes sur la flore andine, tellement particulière, et sur la faune, bien entendu. Pendant ce voyage, ils font la rencontre d'un Espagnol passionné de volcans qui devient leur nouveau compagnon de route, et ensemble, ils décident de gravir le mont Chimborazo qui culmine à quelque 6300 mètres. Vous voyez à quelle époque on se situe. Il n'y a pas si longtemps qu'en Europe, on a vaincu le Mont Blanc, pour vous donner une idée, hein, 4800 mètres. Bon, ben, là, on est à 6300 mètres et l'on pense à l'époque que c'est peut-être, on ne connaît pas bien sûr toute la géographie terrestre, et on pense que c'est peut-être le point culminant de la Terre. Sauf que arrivé à 5800 mètres, les porteurs, qui sont peut-être un peu moins irraisonnables, un peu moins déraisonnable que nos amis, les porteurs décident que ça va bien, ils refusent de poursuivre l'ascension, et ça pour Humboldt ce sera un regret terrible. Lui-même est cependant très affaibli par l'altitude et il ne faut pas le pousser beaucoup pour le convaincre de redescendre. Voilà ce que nous dit Paul Gagnaire. Une fois encore, on demeure stupéfait devant le courage et aussi devant l'inconscience de cet homme qui, sans aucune connaissance de la montagne et sans le moindre équipement approprié, a réussi cependant cet extraordinaire exploit. Alors à la fin de l'année 1802, là vous voyez que j'avance moi avec des bottes de 7 lieues, mais il faut y être sur place avec l'expédition, ça se fait pas comme ça. Il faut imaginer toutes les avanies qui chaque jour les attendent au tournant. À la fin de 1802, les Andes enfin sont franchies. Certes, les compagnons ont appris que l'expédition de Baudin qu'ils étaient venus retrouver, vous savez, eh bien, l'expédition a changé d'itinéraire, elle ne passera pas par le Pérou, mais ça ne les décourage pas plus que ça. Il y a tant et tant à faire dans cette Amérique qui regorge de choses inconnues. C'est à cette période que Humboldt va s'intéresser au courant marin froid qui court le long de la côte péruvienne et qui bientôt portera son nom. Quand on parle du courant de Humboldt, ben ça vient de là, bien entendu. Et puis, eh bien, le voyage continue. Ça va être le Mexique pendant encore un an, à nouveau Cuba, et puis la découverte de ce qui, à l'époque, constitue les tout jeunes États-Unis d'Amérique. Il y tient, Humboldt, à cette dernière étape, et il l'explique dans une lettre qui est citée par Duviol Seminguet. « Je ne pouvais éviter de visiter les États-Unis et jouir du réconfortant spectacle d'un peuple qui bénéficie du don précieux de la liberté. Et oui, on est dans cette époque du souffle des révolutions. Humboldt a une nouvelle occasion là-bas de mesurer sa renommée, qui est déjà très répandue. Hein. Il est gratifié de toutes sortes d'honneurs, il est reçu par des hommes parmi les plus importants. Il se lie notamment avec Jefferson en personne, qui lui confie pour mission d'améliorer les connaissances des Américains sur la Louisiane qu'ils viennent tout juste de récupérer. Oui, on vient d'acheter la Louisiane à la France, à Bonaparte. Et puis vient le moment quand même du retour en Europe, 5 ans à quelques jours près, après leur départ de la Corogne. Le 30 juin 1804, nous raconte Mireille Gaillet, accompagné de près de 40 caisses de collection, Humboldt et son comparse montent à bord de la frégate française La Favorite et quittent les bouches du Delaware en direction de Bordeaux, mettant un terme à cette extraordinaire épopée dont le souvenir va le suivre jusqu'au tombeau. L'ironie de l'histoire, c'est qu'un petit peu avant son grand retour bordelais, un journal français va annoncer la mort du célèbre voyageur Monsieur de Humboldt, prétendument victime d'une maladie. Oh, c'est pas la première fois que cette rumeur a circulé. Il faut vous dire qu'il a eu tellement d'avanies, ce Humboldt. Début août, il est bien à Bordeaux, il est très attendu. La communauté savante, notamment, espère beaucoup du récit détaillé des découvertes et des trésors qu'abritent les fameuses caisses qu'il a remplies et traînées avec lui au cours des quelques 1500 kilomètres qu'il a parcourus en Amérique. C'est une estimation, ces 1500 kilomètres. Et on aurait tort, je pense, de résumer le voyage de Humboldt à une aventure ou une lubie individuelle. Parce qu'avec ses relevés et ses études, on peut dire qu'il a fait avancer un nombre impressionnant de disciplines. La climatologie, la géologie, la biologie, l'histoire, les sciences politiques, l'anthropologie, et j'en passe. Marc Menant est avec nous. Bonjour cher Marc.
Bonjour Franck.
Vous avez fait le voyage jusqu'à Bordeaux pour accueillir, comme nous, le cher Humboldt.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Du film allemand Emmett, sorti en 2013 à l'instant sur Europe 1. Europe 1 qui vous propose une émission au cœur de l'histoire spéciale en direct de la librairie Mola à Bordeaux, une émission en public.
Eh oui.
Franck Ferrand, vous êtes aux côtés de Marc Menant, votre invité aujourd'hui, journaliste et écrivain.
Et écoutez les Bordelais comme ils sont venus nombreux aujourd'hui à la librairie Mola. Pierre-Louis Lancel, qui veille au grain, me fait remarquer, et il a tout à fait raison, que ce n'est pas 1500 kilomètres qu'ont parcouru nos deux compagnons. 15 000, Marc Menant. C'est un exploit, non, en
ah
soi,
non, mais
déjà.
Et tout à l'heure, forcément, c'est tellement abondant, vous ne pouvez pas vous arrêter sur les détails. Déjà, il faut positionner ce qui lie les deux individus. Vous avez utilisé le terme d'amis, je dirais que c'est abusif. Ils sont simplement dans l'abondance, l'appétit de la connaissance. Il y a une connivence extrême.
Ils ont une connivence intellectuelle, mais c'est pas une vraie amitié.
Voilà,
hein.
Voilà, c'est pas la fraternité. Tout simplement pourquoi ? Parce que cet homme que vous avez peint comme étant malingue, comme étant souffreteux, qui était taciturne quand il était jeune, il commence à s'illuminer grâce à la connaissance. Et ce qui l'emporte dans l'existence, c'est lorsqu'il est au contact de gens qui sont dans une sorte d'aura. Et bon plan, bah, il est tristoune. Il n'a aucune étoffe physique. Alors, il est intéressé parce qu'ils ont cette curiosité qui les associe, mais en revanche, il lui manque l'élan en quelque sorte. Et pourtant, ils seront toujours, toujours très attentifs l'un à l'autre. Jamais l'un ne défaillera dans une idée de solidarité. Autre point. C'est cet exploit physique. Tout à l'heure, vous les avez, grâce à vous, on était à leur contact d'abord dans ces sentes qui ne sont pas tracées. On est au coupe-coupe, on essaie de cheminer. Et vous avez parlé des chaussures, mais très rapidement, elles sont laminées. Ils se retrouvent nu-pieds. C'est-à-dire que pendant des centaines de kilomètres, les cailloux, tout ça,
avec
les lamines.
Et la vermine qu'il y a là-dedans.
Et la vermine qui se niche dans les pieds, les aoutas, sont de véritables éléments microscopiques qui viennent creuser des sillons et qui s'incrustent. Et le soir, eh bien, on essaie d'arracher cela pour ne pas avoir les pieds sanguinolents. Donc, il y a cela. Après, quand vous parlez du Chimborazo, 6000 mètres,
6300, ils s'arrêtent à 5008.
C'est une montagne qui terrorise, bien évidemment, tous les autochtones. Il y a la montée à partir de 4000 mètres, si vous avez déjà fait l'expérience, vous connaissez le mal des montagnes. Mais là encore, ils ne sont pas vêtus, ils n'ont rien, ils improvisent, ils n'ont pas la moindre notion de l'effort physique dans ces conditions inimaginables. Eh bien, pour autant, ils s'improvisent alpinistes, sans avoir de piolet, sans avoir quoi que ce soit. Et tous les jours, jamais, jamais, il y en a un qui décourage l'autre, au contraire, on va jusqu'au bout. Et il faudra effectivement qu'il y ait à la fois cette défection de ceux qui les accompagnent, qui étaient dans la hantise des dieux nichés dans ces hauteurs.
Et des démons.
Et puis, il y a aussi une énorme faille qui se dresse devant eux, qui est infranchissable. Et là, ils peuvent développer tous les trésors d'imagination. Ils ne peuvent inventer l'élément qui leur permettra d'aller plus haut.
Je me dis, en vous écoutant, qu'en fait, je parlais tout à l'heure de deux étapes dans la découverte du Nouveau Monde. Mais la vraie découverte, elle est là. Parce que les conquérants du XVIe siècle, quand ils arrivaient pour des raisons politiques et religieuses. Ils dévastaient tout sur leur passage, ils cherchaient de l'or, enfin bon, on connaît ça par cœur. Là, on est en présence de personnes qui cherchent à comprendre et même à aimer le monde qu'ils découvrent.
Ah mais alors ça va plus loin que ça, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, comme vous l'avez signifié tout à l'heure, on est dans la classification. Donc chacun commence, on est à la naissance des sciences et on va essayer de compartimenter. Et Humboldt est contre cela. Il part du principe qu'il y a une sorte d'effet unificateur.
Il y a une continuité.
Voilà, qu'aucun élément existe indépendamment, que tout est ramifié et que c'est ce secret-là qui importe. Alors à tout moment, il jongle avec les appareils. Il y a l'observation topographique, savoir à quelle hauteur on se situe. On porte la lorgnette, comment le ciel s'éclaire au-dessus de vous. Et puis après, il y a la botanique. Et puis, ces individus qui se dressent devant vous, qui sont nus, qui sont là, qui sont démunis de tout, qui sont à la fois dans la curiosité, mais il y a les légendes.
Alors, voir dans une forme d'hostilité latente.
Bien sûr, mais alors, la grande chance, c'est que lui, il est rousseauiste. Quand il était...
C'est le bon sauvage, lui.
C'est le bon sauvage. Il est dans cette utopie que l'être humain se trouve en quelque sorte en déconfiture morale de par la civilisation. Et entre autres, par la faute des religions et surtout de la religion catholique et la religion protestante. C'est un athée, c'est un anti-religieux, je dirais que c'est un bouffeur de curés. Et c'est une sorte d'obsession pour lui. Donc,
comme ça, ça vous fait un point commun, finalement.
Ah bah oui, bah oui. Tout à fait. Et donc, ça le porte au désir de rencontre avec les autres et à condamner aussi ce qu'il découvre, l'esclavage, en partie à Cuba. Et ça, on le retrouvera dans sa deuxième partie de vie, quand il cessera un peu les voyages, qu'il va tenter de classifier, de rédiger ce formidable ouvrage qui s'appelle Cosmos, qui est la synthèse de toutes les connaissances acquises et également de tout ce qu'il va butiner au contact de ses amis savants en France, légués Lussac, Arago et compagnie.
Alors, c'est ça quand même qui est un peu étonnant. Si je ne m'abuse, ils sont partis sur une lettre de recommandation du roi d'Espagne au nom de la couronne d'Espagne et ils reviennent à Bordeaux et tout se retrouve au Muséum d'histoire naturelle de Paris.
Oui, mais déjà parce que pourquoi ils ont obtenu cette autorisation ? C'est un homme d'une brillance intellectuelle exceptionnelle. Il a une truculence.
On parle d'Humboldt, là, Alexandre. Hein.
Oui, tout à fait. Il a l'éloquence. Et alors, que fait-il miroiter au roi d'Espagne pour qu'il sorte les éléments financiers et trébuchants qui permettront cette grande aventure? Eh bien, tout simplement, que ce royaume d'Espagne, qui, après avoir couru la fortune des Amériques, a eu tellement de vaisseaux éventrés et s'est retrouvé avec pas grand-chose, lui...
Et surtout une énorme évasion monétaire.
Voilà. Et lui, le géologiste, il m'a dit, mais là-bas, c'est pas possible. Il y a obligatoirement des filons d'or. Et ces filons d'or, moi, je vais vous les trouver. Donc, cette richesse dont vous avez rêvé, elle vous sera acquise. Et c'est comme ça qu'il a la bénédiction du roi d'Espagne.
Entre le royaume d'Espagne et l'Empire français, il y a la nouvelle République américaine, il ne faut pas l'oublier. Il devient un peu la coqueluche des États-Unis naissants, hein, ce Humboldt. Il est accueilli, on l'a vu par Jefferson, par Franklin Roosevelt.
Benjamin Franklin. Jefferson en fait son intime. Et on est là, on vient écouter ce personnage qui nous fait découvrir des étendues inimaginables et qui nous ouvre sur les connaissances du monde. Dans sa jeunesse, il a travaillé, c'est pour vous dire combien il est éclectique dans cette curiosité, cette soif de l'apprentissage de l'existence et de la vie en général. Il a fait ses propres expériences parce qu'on a cru longtemps que le courant électrique était un phénomène physiologique qui naissait des êtres, quel qu'il soit, et que c'était du réseau nerveux que jaillissait cela. Eh bien, il a fait des expériences sur son corps lui-même en se brûlant pour pouvoir faire naître le courant électrique.
Mais d'où vient cette espèce de passion effrénée pour la connaissance, pour la science, pour l'avancée d'un certain savoir ?
Acceptez-vous que je sois un psychanalyste à deux sous.
Allez-y.
Il se trouve que ce personnage naît en Prusse, il a une maman puritaine, il va se refermer sur lui-même quand il parle de sa jeunesse, et d'ailleurs son frère Guillaume aussi, ils disent « c'était un monde d'horreur, un monde d'ennui ». Bien qu'il y ait la connaissance. Alors la connaissance, c'est ce qui leur permet de sortir de cette gangue misérable qui les enferme. Et puis il y a quelque chose qui le taraude.
Ah ah, mais qu'est-ce qu'il taraude ? Nous le saurons dans un instant.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.fr. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
C'était un explorateur, un savant, un humaniste, mais aussi l'homme de toutes les sciences. On parle d'Alexander von Humboldt sur Europe 1 avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Marc Menant, journaliste et écrivain.
Et vous avez vu comment j'ai interrompu Marc Menant, Anissa, oui. Il nous disait, et alors, il y a quoi, Marc ? Quel est ce...
Qui le taraude ?
Oui.
Le désir de connaissance, bien évidemment, mais également la profondeur des sens. Imaginez. Ce garçon, d'abord, il y a Rousseau, on l'a évoqué tout à l'heure. Mais il est dans cet
élan. C'est-à-dire qu'il lit Rousseau.
Bien évidemment.
Il lit Rousseau dans le texte parce qu'il lit plusieurs langues.
Il lit tout. Il parle couramment le français. D'abord, Il écrit toute la première partie de ses œuvres en français. Il apprendra l'hébreu. Tiens, ça nous permet.
Comme tout bon aristocrate prussien de l'époque.
Hein, donc il est polyglotte. Il apprend l'hébreu simplement pour mieux correspondre avec une jeune fille. On en revient à l'idée du taraudage. Le taraudage de l'intime, si je puis dire. Alors, quand on a eu Rousseau, c'est un fait, mais il y a eu Voltaire, il y a eu les libertins, il y a eu Diderot. Et donc, on se dit que l'effervescence de l'esprit, bien peut-être, peut-elle gagner la chair dès lors que l'on se libère des bondieuseries. Et il y a cette femme qui tient salon où tous les intellectuels se pressent. Et elle est sublime, elle est tellement plus jeune, Henriette, que son mari médecin. Elle a 12 ans de moins que lui et elle est rayonnante.
12 ans de moins que son mari,
oui,
pas que Alexandre.
Bien évidemment, c'est à qui la courtisera et elle n'a Dieu que pour lui. Et lui, il sent qu'il y a ce déclenchement, cette illumination qu'il n'a pas eue pour bon plan, enfin qu'il n'aura pas plus tard pour bon plan. Et... pour autant, eh bien, dans ses profondeurs, il ne se déclenche pas grand-chose. En revanche, quand il est face à un jeune garçon sémillant, il y a un indicible qui se manifeste et qui lui est impossible de reconnaître. Je ne pourrais pas être tenté par un homme, ce n'est pas possible, même s'il a lu les Grecs, même s'il a lu les mœurs de l'Antiquité. Donc il s'interdit cela, il en tombe presque malade, et c'est là qu'il a ce transfert de l'esprit pour mieux masquer cet appel des sens. Et pendant des...
Ça c'est la théorie Marc Menant, je précise.
Non, mais quand on lit les auteurs les plus sérieux, il y en a un très difficile à trouver, c'est Pierre Gascard, qui a écrit...
Remarquable, Pierre Gascard.
Prix Goncourt, entre autres, pas sur l'ouvrage de Humboldt, mais bon, un homme qui était extrêmement sérieux. Et il met à jour cette capacité donc à éteindre l'incendie en se transcendant par l'esprit. Et de là, il est dans ce bouillonnement. C'est-à-dire que lorsque vous avez la chance de pouvoir être avec votre crayon, votre papier, vos instruments pour mesurer l'univers, bien évidemment, vous calmez ce titillement de la chair. Il lui faudra bien des années avant d'admettre ce qui donc se niche en
C'est-à-dire
lui.
C'est-à-dire qu'il préfère les garçons, en fait.
Bien évidemment. Et il aura dans les dernières années de sa vie, mais ça va durer quand même très très longtemps, et c'est là ce que nous révèle entre autres Gascard, à un moment donné, lorsqu'il revient à Paris, puisqu'il y aura de nombreux allers-retours, la première fois qu'il vient à Paris, c'est en 1790, c'est son premier voyage.
En pleine révolution.
En pleine révolution. Et là, il voit ce peuple emporté par l'espérance, ce peuple de la démesure, les intellectuels, la capacité à s'ouvrir à toutes les curiosités. Et il dit, mais c'est ça. Alors qu'en Prusse, on est enfermé, il y a là l'espoir d'une humanité conquérante.
Il y a un personnage dont il faut parler aussi, c'est son frère. Là. C'est lui qui l'introduit auprès de Chaptal, de Jussieu, etc. Son frère qui d'ailleurs fait l'objet avec lui d'une exposition, j'ai oublié de le dire, ça marque maintenant, ça s'appelle « Les frères Humboldt, l'Europe de l'esprit ». C'est jusqu'au 18 décembre prochain, oui c'est ça, jusqu'au 18 décembre, au Centre Sarrail, vous savez, au Crous, dans le quartier de Port-Royal à Paris.
Alors c'est aussi grâce à Guillaume que l'on sait que son frère, eh bien oui, était homosexuel, parce qu'il l'écrira très clairement.
Guillaume, c'est donc le frère d'Alexandre.
C'est le frère d'Alexandre. Et puis il y a Caroline, la femme de Guillaume, à laquelle il adresse de très nombreux courriers. Et c'est comme ça qu'apparaît très très clairement cette tendance qu'il s'était chiné à masquer. A masqué de façon tellement habile que son valet est effectivement son compagnon. Mais alors, on pourrait se dire que vivre avec un valet dans un château, quand il est en Prusse, eh bien effectivement...
Tu as dit, il y a eu un roi de Prusse qui en faisait autant quelques temps plus tôt.
Bien évidemment.
Frédéric II, pour ne pas le nommer.
Mais il est très imprégné de Frédéric II, et les descendants de Frédéric II, qui n'ont pas son envergure intellectuelle, sont très proches d'Humboldt, parce qu'il représente cette prospérité de l'esprit. Eh bien, il fera en sorte que ce valet soit marié et ait deux enfants, pour que, il est normal qu'un couple vive sous son toit, mais en revanche, dans les dernières années de sa vie, cet homme le tyrannise littéralement et c'est lui le maître de maison. La Révolution française le marque, l'imprègne, l'emporte, ça sera son idéal. Et il ne faut pas oublier que c'est quand même extraordinaire. Cet homme est un aristocrate dont le père était très proche du roi, il a été l'un des proches de Frédéric II. Lui-même va être élu par les successeurs successifs, d'abord Frédéric Guillaume III, puis Frédéric Guillaume IV. Il est là obligé d'être, je dirais...
Il mène un double jeu. C'est-à-dire que d'un côté, il a des idéaux qui sont républicains, qui sont tout à fait en faveur de la liberté, de la révolution, etc. Et à côté de ça, il est quand même le représentant officiel de cette monarchie prussienne, dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle n'est pas très avancée.
Ah ben, puis il va même servir de diplomate. C'est-à-dire que lorsqu'il se trouve en France dans les années 1815, c'est parce que le roi de Prusse se sert de ses relations pour essayer de nouer des contacts. Il va devenir même l'intime plus tard de Louis-Philippe, toujours. Et là, c'est pour rendre service à Frédéric Guillaume IV.
Mais quand même, quand vous parlez de Louis-Philippe, on se dit, mais il a vécu jusqu'à quel âge ce bonhomme? Parce que là, on avance quand même singulièrement dans le siècle.
Eh bien, le petit souffreteux, celui que l'on considérait également comme étant presque un débile incapable du moindre effort intellectuel, il vit dans cette envergure de l'intelligence jusqu'à 90 ans.
Et voilà.
Et il met un point final à Cosmos 3 semaines avant sa disparition. Il est encore complètement alerte. Il galope, je dirais littéralement. Il va traverser à un âge avancé, à plus de 65 ans. Il traverse la Russie, là encore, jusqu'en Sibérie.
Jusqu'en Sibérie.
Dans des conditions invraisemblables. Ils vont faire plus de 2500 points de poste. Ils vont user 11 300 chevaux dans la galopade. Et alors, à chaque fois que l'on s'arrête, paf, on se précipite. On prend un instrument. Où se trouvent les éléments de l'univers là-haut? Comment évoluent-ils dans leur tourniquet autour de la Terre? Et puis, il y a aussi toujours cette topographie, l'étude des roches et autres. C'est incroyable.
Et pendant ce temps-là, parce qu'évidemment, on ne voyage pas à la vitesse qui est la nôtre aujourd'hui, pendant ce temps-là, on entretient une correspondance incroyable. Il est l'ami de Gay-Lussac, il est l'ami d'Arago. Enfin...
Avec Gay-Lussac, il va en Italie. Ils font un voyage ensemble. Arago le protège. Et il y aura également, parce que Bonaparte, il le rencontre, et il se dit, étant donné la façon dont partout il jouit d'une aura et où on l'accueille comme étant un homme de la connaissance auprès duquel on cherche à éclaircir son esprit, Il voit ce Bonaparte qui lui tend une main négligée et qui le méprise littéralement. Alors déjà, pour lui, c'est un despote, c'est un homme qui est en train d'assassiner la Révolution, imaginez.
Bonaparte, oui.
Donc il ne peut pas bien le voir. Et Napoléon, donc, il va assister au sacre de Napoléon grâce à Berthollet. C'est là il y a presque une ambiguïté sur le personnage. Il accepte ce salopard, mais néanmoins, quand on est à Paris, ne pas assister au sacre de Napoléon...
C'est le grand événement de l'époque,
Ça... Oui, mais moi, j'y serais pas allé.
Ah, mais ça, c'est vous, Marc, maintenant. Vous êtes encore bien plus jusqu'au boutiste que monsieur, monsieur Humboldt.
Il a ce genre de petite compromission. Et pour autant, Napoléon ne va pas lui en tenir, je dirais, compte positivement, puisque quelques mois plus tard, il demande, il le considère comme un espion, il le considère comme un être nuisible, et il demande l'expulsion d'Humboldt. Et là encore, c'est Berthollet qui intervient, et puis Gay-Lussac et Arago qui vont agir pour que cet homme puisse rester sur le territoire. À la chute de l'Empire, imaginez comme il est heureux. L'Empire s'effondre, mais néanmoins, c'est la Restauration qui va
se faire.
C'est
les frères de Louis XVI qui remontent sur le trône, l'un après l'autre.
Mais, et ça va plus loin que ça. Mais il va servir la France, il va servir Paris. Cette capitale qui, depuis si longtemps, lui apporte autant de plaisir, l'émerveille, le nourrit, le gave. Eh bien, il va, alors que le roi de Prusse vient en France, il lui sert de guide. Et surtout, alors que Blücher veut faire sauter le pont de l'Alma, que l'on veut piller le muséum, il demande au roi de faire en sorte que toutes ces richesses de la France ne soient pas attaquées.
Voilà un phénomène naturel extraordinaire, c'est l'éruptivité de Marc Menant. Si vous voulez retrouver cet enthousiasme sur le net, c'est assez facile, puisque votre manifeste en faveur de la laïcité, qui s'appelle « La laïcité dévoilée, Marc Menant », est disponible sur le site www.marcmenant.fr. Merci de nous avoir fait partager cette passion que vous avez, non seulement pour Humboldt, mais d'une façon générale, pour la connaissance, vous aussi, et pour ceux qui repoussent un peu plus loin les horizons du savoir.
Merci.
Et dans un instant, Franck, sous les applaudissements du public de Bordeaux, vous répondrez à la question de Thibaut via le site internet europe1.fr. Il voudrait connaître les origines du surnom Bête à bon Dieu pour la coccinelle.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et aujourd'hui, Franck, c'est une question de Thibaut via le site internet europe1.fr. Quelle est l'origine du surnom Bête à bon Dieu pour la coccinelle ?
Alors voilà, là, ça va m'amener à vous raconter deux histoires. Une histoire simple et une belle histoire. D'abord, l'histoire simple. On dit que on est au Moyen-Âge, les pucerons sont en train de ravager les récoltes, les fermiers sont là qui prient la Sainte Vierge et tous les saints pour éviter que l'ensemble de ce qui va constituer le garde-manger de l'hiver ne disparaisse. Et puis arrive une sorte de nuée de coccinelles, et vous savez que les coccinelles aiment beaucoup les pucerons et qu'elles en débarrassent les jardins, et donc c'est ce qui va permettre de sauver les récoltes. Et depuis ce jour, dit-on, la coccinelle est considérée comme porte-bonheur, et vous savez qu'écraser une coccinelle, c'est s'attirer les foudres divines. Il faut faire très attention à ces choses-là. Mais ça, c'est l'histoire simple. Il y a une beaucoup plus belle histoire qui nous amène au Xe siècle, lorsqu'un apprenti parisien a été condamné à être décapité sur la place publique, alors qu'il clamait, le pauvre homme, il clamait son innocence. Il est accusé d'avoir tué son patron. Alors, ça y est, on est sur l'échafaud, le bourreau lève son arme vers le billot. L'arme, c'est une grande épée qu'on a aiguisée pour l'occasion. Ah, une coccinelle vient se poser sur la nuque du jeune condamné. Alors, le bourreau la repousse de la main. Seulement, au moment où de nouveau s'élève l'épée de justice, eh bien, la coccinelle revient une deuxième fois sur le cou du jeune homme. Et le roi de l'époque, auquel on raconte ça tout de suite, il s'appelle Robert II, c'est Robert le Pieux, voit dans l'événement une intervention divine et il accepte la grâce du condamné. Or, ce jeune homme qui a été gracié sera innocenté quelques jours plus tard par la découverte du vrai meurtrier. Vous imaginez si la coccinelle, à partir de là, aura bonne presse et si elle devient, au sens quasiment propre, la bête à bon Dieu.